C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Bienvenue. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours, grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes, qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor. Et nous voici, acteurs, consommateurs, à nous de jouer et de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble sur cette géographie si particulière, le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Je vous propose le temps d'un entretien radiophonique d'évoquer ces liens si particuliers. Tentons de conjuguer l'action et le territoire en compagnie d'une ou d'un invité, de parler de nos paysages et de ce qu'on décide d'en faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Antraig, architecte. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Caroline, tu es architecte au CAUE de Lozère, donc le CAUE, j'explique bien, parce que c'est pas encore très très connu, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Donc il y en a un dans chaque département, ou presque. Au quotidien, tu pratiques donc ce métier, en tant que conseil, appui technique auprès de celles et ceux qui souhaitent construire ou aménager, donc les élus, les particuliers, les communes ou autres. J'apprends même que tu distilles la bonne parole dans les écoles. Auprès des enfants, mais on en reparlera. Donc nous allons évoquer ton action, ton regard sur le territoire, et pourquoi pas le territoire Cévenol, et surtout tenter de comprendre où et comment se passe la rencontre entre la femme que tu es et l'esprit des lieux. C'est parti pour l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Donc Caroline, tu exerces ce formidable métier d'architecte. Je dis formidable parce que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup les études, les métiers liés à l'architecture et l'approche que c'est. Et toi, tu as choisi la voie du conseil. Est-ce que c'est un choix délibéré ?
Oui, c'est un choix délibéré. En fait, durant mes études, je me suis beaucoup intéressée aux territoires ruraux. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était comment, moi, architecte, je pouvais intervenir sur ce milieu rural, comment je pouvais faire bouger les choses et proposer des beaux projets plutôt que ce que l'on a l'habitude de voir, hélas, trop souvent dans les petits villages ruraux.
Et donc pour toi, la meilleure façon d'intervenir à ce niveau-là, c'est de conseiller, c'est de dialoguer avec les gens, plutôt que prendre le crayon, on va dire, et faire de la maîtrise d'œuvre un peu plus classique.
Oui, parce que pour avoir un bon projet plus tard, quand on est architecte, il faut avoir un élu qui a les bonnes idées et qui a des bases, qui veut savoir exactement ce qu'il souhaite sur son territoire. Et donc c'est vrai que le métier d'architecte conseil au cadre d'un CAUE, c'est vraiment d'être en amont de la réflexion de l'élu, l'amener à s'ouvrir les yeux, à voir d'autres choses que ce qu'il a l'habitude de voir, peut-être sur son territoire. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui a dont c'est le métier de faire du projet. Donc mon métier, c'est de leur apprendre à faire du projet avant de faire appel à un architecte ou un paysagiste ou toute autre
D'accord.
personne.
Donc t'es pas en concurrence, on va dire, t'es plus en complémentarité, t'es juste avant
voilà.
L'intervention de...
L'idée, c'est qu'on accompagne les collectivités vraiment en amont de leur projet, qu'on les accompagne, qu'on leur présente ce qui est essentiel dans leur village, dans leur territoire. Qu'est-ce qui fait sens dans leur village ? Qu'est-ce qui fait que leur village ne ressemble pas à celui du voisin ? Et vraiment l'essence du projet qui doit naître après. Et ensuite, bon, des données plus techniques hein, comme la faisabilité, les mètres carrés qu'on peut construire, la notion d'un coût pour qu'ils puissent demander des financements, puisque un élu souvent a un gros projet dans son mandat, donc il ne sait pas forcément à quelle porte taper pour les financements, donc nous on lui fait une liste des financements qu'il peut bénéficier, et ensuite une enveloppe financière, et ensuite bien sûr tous les enjeux qui devront concerner le projet.
Est-ce que tu réconcilies un petit peu le métier d'architecte avec les gens, avec les élus ou les particuliers ? Parce que j'ai pas vraiment l'impression que ce métier soit bien vu, on va dire, ou bien connu, quoi.
Mais le problème de la vision du métier d'architecte, c'est qu'il y a beaucoup de magazines où on voit des architectes un peu superstars, Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, qui font des bâtiments qui coûtent les yeux de la tête et qui ne correspondent pas forcément à des besoins. Et ensuite, on voit aussi des grandes villas faites pour des gens qui construisent 700 mètres carrés avec deux piscines, un sauna, un jacuzzi. Enfin,
ça voilà. Fait élitiste, quoi. C'est pas...
Voilà, et moi, je suis pour une architecture du quotidien. Tout ce qui nous entoure, c'est de l'architecture, c'est du paysage. C'est aussi de l'urbanisme, comment on organise les maisons. Donc ça, c'est un tout, c'est avoir une vision globale des choses. Et tout a un sens dans notre territoire, voilà. qu'on soit à l'école, l'école c'est un architecte qui l'a construit, quand on se promène dans un parc, c'est peut-être un paysagiste qui l'a conçu, voilà.
Quelle est la demande principale, enfin on va dire, quelle est la thématique principale sur laquelle tu interviens auprès des élus ou des particuliers, enfin c'est peut-être pas la même d'ailleurs, c'est quoi le souci des gens aujourd'hui?
Alors, pour les particuliers, c'est un peu particulier parce que... en soi. Non, en fait, le particulier vient me voir, ça peut être des projets de construction ou de rénovation. Là, les enjeux énergétiques sont toujours un petit peu primordiaux. Il y a aussi la question du coût qui est aussi primordiale. Les gens qui veulent construire aujourd'hui ne se posent pas tellement la question de l'architecture, mais plutôt du coût et de l'énergétique. C'est devenu un peu un bien de consommation, la maison. Et du coup, moi, je suis là pour leur rappeler que... construire, c'est aussi s'inscrire dans un site, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et aussi leur rappeler que quand ils dessinent leur plan, leur salon, c'est aussi l'endroit dans lequel ils vont vivre. Donc il faut privilégier des belles vues, il faut privilégier le soleil. C'est des choses qu'on oublie trop facilement. Donc ça, c'est partie un peu à part du métier. Après, d'un point de vue des élus, il y a plusieurs thématiques qui sont assez intéressantes, je trouve. Il y a la thématique de l'aménagement du village. Comment j'aménage mon village ? Est-ce que je fais des trottoirs ? Comment je fais la place ? Souvent, c'est comment je gère le stationnement. Alors, c'est quelque chose qui, souvent, est une question primordiale pour les élus, qui, en fait, est une question secondaire pour nous au CAUE. Et ensuite, il y a la question des bâtiments vacants, voilà, qui est aussi quelque chose d'assez important pour les élus. On a beaucoup de bâtiments qui sont assez vacants. Et l'idée des élus, c'est toujours d'arriver à attirer de nouvelles populations.
Je parlais en introduction je disais distiller la bonne parole. Donc cette bonne parole, ce serait ça, un espèce de mix entre l'énergie, l'esthétique, le fonctionnement.
Oui, moi je m'appellerais ça plutôt généralement le cadre de vie. Ouais. Voilà, comment bien faire pour vivre ensemble. Donc ça passe par moi, comment j'insère ma maison sur mon site. Ça passe par l'élu, comment j'aménage mon village pour que les gens vivent bien dans mon village.
Alors Caroline, moi j'ai une question précise sur le territoire Sévenol, on va dire, enfin sur le territoire qui nous entoure. On hérite d'un paysage là où des générations de gens ont empilé les pierres les unes sur les autres. Est-ce qu'il y a encore une place du coup à la création, à la créativité quand on hérite de ce paysage extraordinaire, je sais pas, mais en tout cas caractéristique, comme je le dis également en introduction. Est-ce qu'on a encore une liberté à concevoir, à faire des extensions? C'est quoi notre marge de manœuvre?
Mais moi, je dis tout est possible tant que... Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on le voit, il y a des bâtiments, ils sont typés années 70. Voilà. Et je trouve quand on fait un projet, une extension, une construction, ce qui est important, c'est de travailler sur ce qui est essentiel et intemporel sur le territoire. Ça peut être le volume d'une maison traditionnelle. Si on reste dans la volumétrie des maisons traditionnelles, notre bâtiment, il fera forcément sens dans son paysage. Si on travaille avec un petit peu de pierre, on fait aussi sens. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de travailler avec ce paysage et ce territoire. Voilà, ça ne sert à rien de faire des gros terrassements avec des murs de 4 mètres. Nos anciens savaient très bien faire des bancelles, des failles, des terrasses, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur qu'est-ce qui fait sens dans l'architecture locale, que je peux réinterpréter de manière très très contemporaine. Il y a des projets avec des toitures végétalisées, il y a des projets avec des très grandes baies vitrées. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui fait sens dans chacun des villages dans lesquels on s'inscrit.
Donc ça veut dire que dans un premier temps, avant tout projet, si je t'écoute, là, il faut regarder ce qu'il y a autour.
Exactement.
C'est d'analyser en fait... ce qui fait sens, comme tu dis, c'est-à-dire c'est quoi les deux, trois éléments que je dois absolument reproduire ou réinterpréter. Puis après, ma liberté sera à l'intérieur de ça.
Mmh. Mais ça peut être, par exemple, toutes les maisons sont alignées dans un même sens, souvent dans les Cévennes. Hein, on est face au soleil, on se protège de la pluie. On ne se met pas parallèle à la pente, mais plutôt perpendiculairement pour que l'eau puisse dévaler des deux côtés. voilà, c'est quelque chose d'assez essentiel, mais... Si on fait sa maison, on va essayer de se mettre dans le même sens que les maisons qui sont autour de moi. C'est aussi simple que ça. Et les maisons Sévenol avaient cette intelligence de travailler sur des terrasses, différents niveaux. Voilà, ça, il faut essayer de le retrouver, mais on peut le faire de manière très, très contemporaine.
Donc finalement, le territoire n'est pas un frein à l'expression, à la créativité.
Ah non, pour moi, s'insérer dans un paysage lausérien et cévenol, parce que le CAU, on travaille sur tout le département, mais même cévenol, c'est une richesse. C'est ce qui va nous permettre d'avoir plein d'imagination. On ne se pose pas sur quelque chose qui est nu, on se pose sur quelque chose qui a déjà énormément de richesse. Donc le projet ne peut qu'être meilleur, normalement.
Les architectes adorent les contraintes, non ?
C'est ça.
Enfin, certains travaillent sans contraintes.
Oui, ça donne des choses un petit peu particulières, des fois.
On revient au star system, voilà. Peut-être. Au-delà des contraintes culturelles, architecturales passées, de ce qui est déjà construit, il y a aussi des contraintes physiques. Là, je pense aux ressources, par exemple à l'eau, hein, qui est quand même un facteur qui peut être limitant ici dans les Cévennes. Je parle également du relief, la contrainte physique. Enfin, moi, je trouve qu'ici, c'est un paysage, comme je le disais à Christina il y a quelques mois, torturé, géologiquement torturé. C'est quand même compliqué de construire ici. Enfin, ça a été très compliqué, en tout cas. Est-ce que ce territoire, c'est une question un peu provocatrice. Est-ce qu'il peut encore se développer, ce territoire ? Est-ce qu'on peut encore construire ce territoire où les pentes sont importantes, les fonds de vallée sont inondables, etc. Est-ce que toi, tu vois un territoire demain qui se développe encore ?
Ah mais totalement. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de contraintes sur l'eau, sur l'inondation, sur les fortes pentes. Mais au même titre que ce qu'on peut trouver sur les gorges du Tarn, où on a les chutes de blocs. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont très réglementaires. Hein. C'est-à-dire que si une maison n'a pas d'eau potable, si une terrain n'a pas d'eau potable, il ne pourra pas se construire de bâtiment. Voilà, donc ça, c'est toutes des réglementations urbaines. Hein, voilà. Ça, c'est les contraintes les plus difficiles. Après, d'un point de vue architectural, on peut construire partout. Enfin, voilà, moi, j'estime que la contrainte physique du relief ou de l'inondation, d'un point de vue architectural, peut toujours se résoudre. Là où on a le plus de difficultés, c'est sur tout ce qui est réglementaire. Voilà. Notamment sur les petites communes où il n'y a pas de règlement d'urbanisme, donc on ne peut pas construire partout, on ne peut pas construire une maison seule au milieu de nulle part, on n'a pas le droit de le faire. Voilà.
Et du coup, je pense aussi finalement au coût de ce développement, parce que bon, tu dis que ça peut se développer, effectivement, mais du coup, construire sur des terrains très contraints comme ça, ça doit coûter plus cher.
Oui, c'est plus cher. Après, il y a aussi la question, il y a beaucoup de bâtiments qui sont quand même vacants. Alors, on peut aussi se poser la question de la réhabilitation sur ce territoire-là. Des petites réhabilitations avec des extensions, il y a plein de solutions possibles pour que des bâtiments qui sont quand même très peu lumineux, hein, les bâtisses cévenoles, souvent on a un gros manque de lumière. On a des maisons traditionnelles qui font à peu près 4 mètres de large. Donc, ça veut dire... Adieu la grande pièce, salon, cuisine, salle à manger, toute ouverte.
Comme dans les catalogues.
Comme dans les catalogues, bien sûr. Mais on peut trouver plein de solutions pour aménager un bâtiment qui, de prime abord, ne paraît pas forcément adapté à notre vie actuelle, mais qui peut l'être par des petits projets d'extension, de raménagement intérieur.
Donc tu nous dis que, d'une part, les Cévennes et ce territoire sont promptes à la créativité architecturale. Mais en plus, tu nous dis qu'il y a finalement un mode de développement qui peut se mettre en place ici et qui est différent d'ailleurs, enfin de la plaine, parce que justement, il y a des contraintes physiques, il y a des hameaux, mais il y a des bâtiments vacants, etc.
Oui, moi je pense que sur le territoire des Cévennes, il y a vraiment la question de la réhabilitation à se poser. On a des bâtiments qui sont en assez bon état, on a des bâtiments qui avaient un usage souvent agricole, qui maintenant n'en ont plus. Comment on peut transformer ces bâtiments-là ? C'est une question qui est très très intéressante et qui peut amener plein de projets un peu innovants. Voilà.
Bon, super. On revient au territoire après une petite pause musicale.
Malunyane na ye a travai fosse mavanga esclavage m'avanga, guerre mondiale m'avanga, travail force m'avanga. Oh, bekeni tu ba mulenya, wole tu ba bolu mane konyo mala. Anona wo bekera nazara lunya, wole nazara masonga ne konyo mala. Ano me malo nyane na yea, travail force m'avanga, esclavage m'avanga, guerre mondiale m'avanga, travail force m'avanga. Ngo begene to ba mulenya, wole to ba bolu mane konyo mala. Ano na wo begera nazara lunya, wole nazara masonga ne konyo mala. La mondialisation a été imposée, mais imposée en faveur de qui? Et Afrique est toujours dans la merde.
Nadzara, Tikenja Fakoli, je vous recommande à tous cet album qui s'appelle France-Afrique, un album engagé avec, vous l'avez entendu, du cœur, des cœurs et une voix, c'était en 2002. Caroline, on est toujours ensemble pour parler d'architecture, de territoire et d'intervention sur ce territoire. Un territoire sévenol sur lequel tu travailles régulièrement auprès d'élus ou auprès de particuliers. Est-ce que depuis les quelques années, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu...
Alors ça fait 2 ans que je suis en Lozère.
2 ans, d'accord. Mais tu connais le département avant ?
Alors moi je suis originaire de l'Aveyron, donc je connais un petit peu la Lozère,
ouais.
Mais je connaissais plutôt le territoire Nord-Lozère, Aubrac.
D'accord. Est-ce que tu sens que le territoire, parce que 2 ans c'est vrai que c'est court, mais est-ce que tu sens quand même que le territoire change ? Et dans quel sens ?
Alors, changer ou non, je pense que je suis mal placée pour en parler peut-être, parce que ça fait que 2 ans que je suis sur le territoire. Après, je vois qu'il y a des initiatives qui se créent, ou qui se sont créées, qui sont... assez intéressante. On a beaucoup de nouveaux arrivants quand même sur ce territoire. Moi, je les vois en rencontre avec des particuliers. On a des gens qui viennent sur le territoire pour son paysage, pour sa qualité de vie, pour retrouver une espèce de sincérité, sincérité du quotidien. J'appelle ça comme ça parce que c'est voilà revenir aux éléments essentiels. vivre avec ce qui nous entoure, le paysage, la culture, et aussi une certaine atmosphère de village. Voilà, ils aiment bien rencontrer d'autres personnes, parler avec leurs voisins. Pour nous, ça nous paraît tout simple, mais c'est pas forcément le cas quand on est nouvel arrivant.
Ces nouveaux arrivants, ces personnes qui portent des projets, tu les vois construire, tu les vois intervenir sur leur territoire. Est-ce qu'ils le font de manière cohérente avec leur environnement ?
Oui, moi ce que je trouve sur les personnes que je rencontre qui viennent de ville, par exemple j'ai reçu il n'y a pas très longtemps des personnes qui venaient de Toulouse pour réaménager un ancien bâti agricole. Et c'est vrai qu'ils sont venus pour le territoire. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas chaque petite rue, au petit coin, aux petites routes des Cévennes, mais ils ont saisi l'esprit du territoire en tout cas. Et du coup ils viennent avec leur projet qui est en complète adéquation avec le territoire.
Voilà. Et toi, du coup, en tant qu'architecte conseil au CIE de la Lozère, tu les écoutes, tu dis « c'est bon, vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de moi
». Non, après voilà, sur l'architecture, ouais. L'aménagement intérieur, ils ne connaissent pas non plus les techniques de construction anciennes, donc c'est compliqué, ouais. La lose de schiste, on n'en voit pas tous les jours et pas dans tous les coins de France, donc il faut expliquer, faut expliquer les tailles des ouvertures, pas faire n'importe quoi, voilà.
D'accord. Le territoire aujourd'hui, l'aménagement, la construction, il suffit d'écouter la radio et les médias pour se rendre compte. On est vraiment face à des enjeux complexes et multiples. Hein. J'ai l'impression que ce n'est pas comme il y a un siècle. Quoi. Là, aujourd'hui, on parle de climat, d'énergie, de confort d'usage, d'esthétique aussi. C'est quoi pour toi le marqueur d'un bon projet ? Qu'est-ce que tu mettrais en numéro 1 s'il faut mettre quelque chose en numéro 1 ?
Moi, c'est la manière dont les gens se l'approprient. Voilà, un beau projet, c'est juste mettre un banc au coin d'une rue et que les habitants puissent s'asseoir dessus et parler. Voilà. Pour moi, la question du cadre de vie, elle est vraiment essentielle. Et comment les gens s'approprient le territoire, comment en aménageant une ancienne friche, on en met une prairie, on met des moutons, je trouve ça génial. Parce que du coup, les gens voient des moutons et se rapproprient leur territoire. Enfin, c'est quand même le plus important.
J'ai l'impression que quand on parle avec toi, que le bâtiment, l'habitat sur lequel tu conseilles, c'est plus un habitat, c'est un territoire entier, quoi.
Oula.
Tu parles de prairie avec des moutons, alors qu'en fait tu es architecte, tu vois, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que tu déportes en fait le métier lié à la maison, à la construction, sur le territoire en fait, sur le paysage en entier.
Quand on travaille dans le milieu rural, encore plus qu'en milieu urbain, où on n'a pas les mêmes enjeux, on est vraiment sur du bâti dur, quand on travaille sur le milieu rural, tout a un sens. C'est-à-dire que si je travaille sur une maison, par exemple la clôture, c'est quelque chose de très important la clôture. Si je mets une clôture en parpaing, certes que j'enduis, mais ou entre ma clôture et ma route, y a du goudron ou du parpaing, je perds toute l'essence du territoire. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir par exemple là, une clôture qui peut être avec des piquets et un petit peu de plantes locales. Voilà, et pour moi, pour qu'un projet soit réussi, il faut vraiment qu'on ait une vision globale entre le paysage, l'urbanisme et l'architecture.
Voilà. Avec l'habitant, donc.
Et l'habitant aussi.
Au cœur du dispositif, comme on dit. C'est bien, l'habitant et le lien social, c'est vrai. C'est vraiment un volet qu'il ne faut pas oublier dans tous ces sujets. Et justement, donc je le disais, tu travailles auprès des enfants. Tu as une mission, je ne sais pas si c'est inscrit dans les statuts du CAUE,
oui.
Une mission auprès des enfants en éducation à l'architecture. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors en fait, le CAUE, ça a été créé par la loi sur l'architecture. Donc on a quatre grandes missions qui sont inscrites dans la loi. On a le conseil pour les particuliers, le conseil pour les collectivités, la sensibilisation et la formation. Et dans cette sensibilisation, on a un agrément pour intervenir en milieu scolaire. Donc j'interviens à peu près dans tous les niveaux, beaucoup en primaire quand même. Voilà. Et on fait de la lecture de paysages, on fait de la lecture de ville, hein, on apprend à regarder sa ville, on fait aussi un petit peu de patrimoine, on fait de l'architecture, et aussi on fait, le dernier atelier qu'on a créé, c'est Ma ville idéale, où petit à petit mon village s'agrandit, c'est-à-dire qu'on visite le village, on apprend à regarder les choses, voilà. Toutes les interventions en milieu scolaire, c'est pour apprendre à regarder les choses, et ensuite, pour petit à petit mon village s'agrandit, les enfants essaient de comprendre comment est constitué leur village. Et ensuite, c'est à eux de créer leur propre village par des cubes. C'est eux qui font les routes, les places, etc. Voilà.
Et donc toi, tu es toute seule au CIE de la Lozère pour piloter ces quatre grandes missions, dont cette mission-là auprès des écoles ?
Voilà, on fait une trentaine d'interventions en milieu scolaire dans l'année.
Et quand tu dis « on », c'est « je » ?
Non, il y a ma collègue, Laurence, voilà, qui est secrétaire, qui s'occupe de toute la partie administrative et comptable. Mais c'est vrai que voilà, le CIE est financé par une taxe sur l'aménagement.
Ouais.
On a un tout petit pourcentage du petit pourcentage. Voilà. Et comme la Lozère ne construit pas énormément... le CIE est le CIE le plus petit de France. Voilà.
Une petite structure, mais avec une mission de service public, en fait.
C'est vraiment ça. Les derniers... donc, il y a eu un forum sur tous les CIE de France qui s'appelait Intérêt public. Et je trouve que c'est vraiment ce que nous, on porte. Quoi. Voilà.
D'accord. Et travailler auprès des enfants sur ces sujets-là d'architecture et de paysage, c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup dans les écoles, me semble-t-il. Ce sont des matières qui ne sont pas enseignées.
Non.
Enfin, dans les écoles primaires et...
Ils ont un peu de géographie.
Voilà.
Mais c'est tout ce que l'on a.
D'accord. Donc, est-ce que l'objectif, c'est pallier ce manque, justement ?
Oui, et puis les petits d'aujourd'hui seront les adultes de demain qui auront des projets. Donc, la sensibilisation, elle passe aussi par eux. Et ça permet aussi d'apprendre ce qu'il y a autour de nous. Et c'est important que les enfants... apprennent à s'éveiller le regard. Voilà, c'est la question de la curiosité quand on rentre en milieu scolaire. Comment on les amène à voir quelque chose qu'ils voient tous les jours de manière différente. Voilà. Et ça peut leur servir pour tout, pas forcément pour l'architecture et le paysage. Hein, ça apprend à regarder autour de soi.
Donc en fait, montrer aux enfants ce qu'on a autour de soi, et même autour de l'école, hein, et même là où on habite, c'est pas forcément se regarder le nombril. C'est s'ouvrir aussi à des disciplines qui ne sont pas enseignées.
Voilà, puisqu'ils font un petit peu de géographie, ils apprennent un petit peu le paysage.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au CIE, on essaye de leur montrer, leur expliquer un petit peu comment ils vivent, leur montrer comment est-ce qu'ils pourraient vivre. Voilà. Au CIE, on est un peu des idéalistes, donc voilà.
Il en faut sinon.
C'est ça.
Mais il faut avoir des idéaux ou un idéal, en tout cas, quand on travaille sur ces... Enfin, à t'écouter, en tout cas. Et tu t'adresses, tu disais, aux futurs constructeurs.
Oui.
Futurs décideurs peut-être, mais également aux enfants de parents qui construisent.
Oui, puisque ce qui est intéressant, c'est que du coup, des fois, je vois des enfants peu de temps après des interventions en milieu scolaire où ils se promènent dans leur village et disent à leurs parents « Oh, regarde, papa, maman, là, c'est une dent creuse. C'est un ancien bâtiment qui s'est effondré. Et maintenant, c'est devenu une place. » Mais voilà, je trouve ça... Voilà, ça a du sens aussi, en passant par les enfants, forcément, le soir, ils répètent à leurs parents.
Ouais.
Donc, c'est une manière aussi déguisée de faire passer un message. Voilà.
Donc l'architecture, en fait, Caroline, là, ce que tu dis, là, ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est aussi de la culture.
Tout à fait. Et la culture, c'est pas forcément écouter France Inter, elle a la FIAC, quoi. Voilà.
Ouais.
La culture, elle est tout autour de nous.
Parce que moi, quand je vois des architectes, là, par contre, qui sont installés, c'est des gens qui conçoivent, qui construisent avec des logos, avec des compas et des règles graduées. C'est un peu... c'est pas que ça, l'architecture.
Non, c'est pas que ça. Et l'essence de l'architecture, ce n'est pas ça. Voilà. L'architecte, à la base, c'était un maçon. Donc, il y a aussi cette notion de... Être architecte, c'est aussi faire. Enfin, c'est... Voilà, c'est terre à terre, quoi, comme métier. Et c'est aussi... Moi, je dis toujours que j'aime bien l'idée de l'architecture des petits riens, quoi. Tout doit être un petit peu architecture. On n'est pas là pour faire des philharmoniques. On est là aussi pour que les gens ils aient un petit peu de bonheur dans toute la journée, quoi.
Tu veux parler de la Philharmonie de Paris ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Bon, très intéressant. Et toi, Caroline, une dernière question, peut-être pour... Pour te mettre très mal à l'aise sur une question très compliquée, très large, c'est quoi pour toi, en tant que jeune architecte, le monde idéal ? Le rêve, un territoire de rêve, comme toi, tu peux l'imaginer ? Ou comme tu le souhaiterais ?
Ouais, mais c'est compliqué comme question, ça.
Ah, tu vois, je t'avais dit.
Moi, je trouve que l'endroit idéal, c'est vraiment où les gens se sentent bien dans leur territoire. C'est un site de projet, enfin, si on parle de projet, un territoire de projet idéal, c'est aussi des contraintes où on part pas de rien. Et tu disais tout à l'heure, les Cévennes, il y a énormément de contraintes, oui, mais c'est ce qui est fabuleux pour un territoire de projet. Et où il y a des gens aussi, qui sont des habitants qui sont motivés et partant pour faire des choses.
Ah, écoute, il faut absolument qu'on parle de ça avec un élu. Hein. J'essaierai d'en avoir un pour la prochaine émission. Merci beaucoup, Caroline.
Merci à toi.
C'était passionnant. On a parlé de créativité sur ce territoire, de développement. Ouais, le développement, il est possible, mais avec un esprit justement qui colle à la réalité,
ouais,
et qui colle aux besoins de ce territoire. On a besoin, en fait, finalement, de développement. C'est pas un gros mot. Et puis, on a surtout parlé d'habitants, de liens sociaux, et on est content vraiment d'entendre que les conseils que tu prodigues et ton métier au quotidien, bah c'est centré sur cette notion-là. C'était l'esprit des lieux sur Radio Bartas. À la technique, nous avions Aurélien, et à l'écriture et l'animation, Éric Dessolier. L'émission sera rediffusée dans 15 jours, même heure. Le mois prochain, nous ne recevrons pas, mais je serai accueilli chez Monsieur Jean-Max André, maire de Gabriac, petite commune des Vallées-Sévenoles. À bientôt !